Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis très content de retrouver Pierre-Yves, un ami. Finalement, c'est la première fois que ça m'arrive d'interviewer un copain dans le podcast, mais c'est pour la bonne raison. Et donc, je suis très content de te dire bonjour Pierre-Yves.
Salut Brieux, merci de m'accueillir.
Très content de te retrouver. Alors, c'est assez rigolo puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir des invités qui traite de ce sujet-là, aussi spécifiquement que la restauration, que toi tu le fais au quotidien. Et justement, bah, tu vas pouvoir nous dire un petit peu tout ce que tu fais depuis maintenant 2-3 ans que tu fais ce projet. J'en dis pas plus pour le moment, mais on va y venir par étapes. Déjà, comment on s'est rencontrés, parce que je pense que ça c'est assez rigolo. Donc, dans une autre vie entrepreneuriale, pour Agripolis, tu étais finalement le premier salarié d'Agripolis, donc entreprise d'agriculture urbaine principalement à Paris qui a malheureusement cessé ses activités en 2023, enfin qui ont repris sous une autre forme pour être tout à fait précis. Et finalement, pour diverses raisons que tu pourras peut-être nous expliquer ou non, tu es parti au bout d'un mois et demi. Donc ça, c'était à Paris en 2016. Et finalement, la vie a fait qu'on s'est re-rencontrés dans un square à Nantes en 2019, si je me souviens bien. Et puis, ça en a suivi quelques déjeuners jusqu'au jour où bah, j'ai appris que tu ouvrais une pizzeria au 6 rue Racine, sachant que les bureaux de Circulab à Nantes sont au 8 rue Racine actuellement. Et donc, voilà comment finalement une nouvelle cantine qui s'est créée en octobre 2021, si je me souviens bien. Eh bien, voilà un petit peu ce rapide coup d'œil hein, dans le rétro, disons. Mais est-ce que tu peux maintenant te présenter et sortir de cet angle de vue qui est le mien?
Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que par les hasards de la vie, on s'est retrouvés. Alors, c'est peut-être même plus des hasards vu la récurrence, mais on
Ouais,
s'est
ça
retrouvés à
c'est des
plusieurs moments.
synchronicités,
Ouais. C'est très drôle, ouais, cette expérience en commun à Paris en 2017,
ça. 2016.
2016.
Ah non, 2017, t'as raison, puisque 2016, c'est la création d'Agripolis.
Ouais, 2017, et puis ces rencontres à l'improviste, ouais, en dehors de notre relation particulière et récurrente, ouais, moi j'ai 42 ans, j'habite à Nantes depuis 7 ans maintenant, je me suis marié, j'ai deux enfants, un petit garçon, une petite fille, et voilà, je suis ravi d'échanger avec toi sur les projets, sur ce que j'ai entrepris il y a 2 ans et demi et sur ce dont on va parler maintenant. Mon parcours, pour le situer, c'est un parcours un peu atypique. Je suis historien de formation et puis je complète ma formation en histoire par des études de commerce avec cette double casquette d'être à la fois issu des sciences humaines et puis avec une orientation peut-être plus tournée business. Je vais travailler une partie de mon début de carrière dans la grande distribution. Ensuite, je vais écrire des pièces de théâtre pendant quelques mois. Je vais vivre une vie de baladin du spectacle dans des théâtres à Paris, en participant à plein d'événements comme ça. Je suis un agriculteur, en tout cas par l'expérience que j'ai vécue à tes côtés chez Agripolis. Quelques semaines, effectivement.
Pour
Ça a
beaucoup,
été éphémère.
c'est pas considéré comme tel.
Ça a été éphémère, mais ça a été un passage. Ça m'a permis de renouer avec mes racines. Moi, je viens d'un milieu agricole et j'étais un peu le fils prodigue parti à la ville et dans les métropoles pour envisager le monde différemment. Et donc, cette partie-là de ma vie, aussi brève soit-elle, ça m'a rapproché de mes racines. Et puis, je suis arrivé à Nantes juste après une expérience d'un an et demi dans la production audiovisuelle, où j'ai participé à un projet passionnant où la créativité, le visuel, l'esthétique, voilà, sont venus enrichir ben, tout ce parcours et les expériences que j'avais vécues, jusqu'à arriver à Nantes pour faire un job dans lequel je me suis éclaté relativement, mais j'avais autour de 40 ans.
En plus, là, de souvenir, tu refaisais les connexions avec la grande distribution que tu avais commencé à Paris.
Ouais, exactement. Je viens pour effectuer une mission pour Système U. Moi, je passais l'essentiel de ma carrière dans la grande distribution à travailler autour des produits frais traditionnels. Les fruits et légumes, la boucherie, la charcuterie, les rayons traditionnels. Et je venais chez U pour réaliser une mission de repenser des concepts des magasins. Bon, ça tient 2 ans et puis je sais pas. L'âge, les circonstances, la maturité, mon regard sur le monde et sur l'environnement qui change, qui me fait gagner en maturité. Et je me sens prêt pour entreprendre quelque chose d'un peu plus personnel et dans lequel je vais avoir le sentiment d'avoir un impact au moins concret à mon échelle et la possibilité de mettre en place des idées et des conceptions. Voilà, ça nous emmène au projet Agapé. Qui a donc ouvert en octobre 2021.
Alors on va y revenir, ouais. Mais effectivement, donc c'est une pizzeria, mais qui est un petit peu particulière. Mais justement, avant que tu nous présentes cette fameuse pizzeria, est-ce que tu peux nous relater un petit peu les expériences ou les enseignements que tu as découverts en défrichant un petit peu ce sujet de la pizza en France?
Ouais. Alors, la pizza, au départ, moi, je suis, comme l'immense majorité des Français, c'est mon plat préféré. J'en mange tout le temps, depuis toujours, aux grandes dames de ma famille, de mes proches, de mon épouse. Mais il y a une véritable passion derrière. Et j'avoue que j'en rougissais un peu dans mon coin jusqu'à ce que je m'intéresse au sujet et que je me rende compte qu'en France, on est les plus gros mangeurs du monde de pizza.
Avec toi en premier, finalement.
Ouais. Moi, je fais partie des 10 plus gros mangeurs de ma génération. Donc, je fais vraiment partie de la crème sur la consommation de pizza. Et quand on sait ça, ça nous renvoie à quelques chiffres. Je pense que c'est important d'avoir des ordres de grandeur à l'esprit pour dire qu'on est loin de l'anecdote. En 2023, on a mangé 1 500 000 de pizzas en France. Ça représente, grosso modo, plus de 3% des repas des Français.
Ah oui.
1 500 000 de pizzas, dont environ entre 40 et 50% qui sont consommés au restaurant. Si on traduit tout ça en valeur, c'est plus de 8 milliards d'euros qui vont être dépensés tous les ans par les Français dans les pizzerias. Donc, c'est le plat le plus populaire de France et celui auquel... vraisemblablement, personne ne renoncera jamais, au contraire. Tel qu'il est fait aujourd'hui, tel qu'il est préparé aujourd'hui et jusqu'à présent, il y a deux façons de préparer les pizzas. Il y a un aspect authentique, où on va vraiment miser sur l'origine, et puis la genèse de l'histoire de la pizza, le côté napolitain. Et là, on va utiliser des ingrédients de qualité, mais qui viennent de 2500, 3000 km du sud de la botte de l'Italie. Ça, c'est quand on fait des bonnes pizzas. Et puis, il y a une immense partie, très grande partie, de ce qui est produit, qui va être réalisé avec des ingrédients issus de l'agro-industrie. Oui. Donc, des fromages sans âme, des charcuteries sans âme pleines de nitrites. Et la conséquence, c'est que ce plat qui est archi populaire, malgré tout, c'est assimilé à de la malbouffe. Tout le monde en a conscience, on en parle, ça fait partie des images emblématiques de la junk food, mais personne n'y renonce. La problématique que moi je mets sur le tapis au moment où je commence à réfléchir à mon projet, c'est de me dire, puisque les gens n'ont pas l'intention de changer, puisque ce plat il est inscrit dans nos habitudes de consommation et puisque durablement on va l'avoir sur nos tables et dans nos régimes alimentaires, qu'est-ce que c'est la pizza au juste ? Et en fait, quand tu déconstruis un peu le truc, tu te rends compte que la pizza, bah, c'est du pain, c'est des légumes, c'est de la charcute et c'est des fromages. Et en fait, tous ces trucs-là, il y en a partout autour de nos villes, dans les campagnes, produites par des producteurs à proximité. Donc, pendant la période d'expérimentation, nous, on est allé à la rencontre de producteurs bio de l'Euro-Atlantique et puis on a commencé à faire de la pâte avec la farine qu'on a trouvée dans la région. On a commencé à faire des bases avec les légumes qu'on a trouvés dans la région. On a mis des charcuteries, on a mis des fromages dessus. On a testé et on s'est rendu compte que bon sang, ça avait vachement de gueule niveau gustatif. Et on s'est dit, punaise, c'est possible. Il y a peut-être une alternative pour faire de ce plat qui est finalement, nous, dans notre jargon, assimilé à un plaisir coupable, pour le transformer en plaisir durable. C'est-à-dire à quoi on répond quand on travaille de cette manière? Eh bien, on rend l'alimentation durable accessible au plus grand nombre, puisque c'est un plat de destination. Et en plus, on permet à des producteurs de la région d'avoir des perspectives et d'avoir du travail. Et donc, c'est toute la démarche qu'on a initiée et qu'on a mise en œuvre chez Agapé depuis octobre 2021.
Et donc, en plus, c'est génial parce que le fait d'aller au contact des agriculteurs, enfin, des différents producteurs, finalement, tu as repris aussi une de tes expériences passées que tu as réutilisées dans ce projet-là.
Bah, c'est marrant. Tout à l'heure, on parlait de notre relation à nous qui est faite de trouvailles, retrouvailles, qu'on peut mettre sur le compte du hasard ou pas. Finalement, un parcours professionnel, c'est des expériences dont on s'enrichit et qui finissent bien souvent par conditionner le projet que vous menez à son terme, quoi.
Ouais,
et donc, moi, c'est nourri
de
cette culture du produit frais, de ses racines paysannes, la grande distribution, qu'on le veuille ou non, c'est 67% de la consommation en France. On peut condamner, on peut trouver ça triste, mais aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, on a conscience que le pouvoir d'achat, c'est un problème d'une acuité
terrible. Puis le système agroalimentaire est fait comme ça aussi.
Et puis le système agroalimentaire est pensé de cette manière-là. Donc à cet endroit, on a toujours à l'esprit l'idée qu'il faut pouvoir répondre au pouvoir d'achat. Et donc, cette expérience-là, ça m'a enseigné que le premium, les produits de haut de gamme, pour que l'essentiel des gens puissent y avoir accès, il faut trouver des modèles alternatifs. Et en fait, c'est toute la démarche qu'on initie chez Agapé. En fait, quand on fait venir des très bons ingrédients du fin fond de l'Italie, on va passer par 3-4 intermédiaires. Chaque intermédiaire, on va le rémunérer pour la valeur qu'il apporte à l'intérieur de la chaîne de valeur. Donc, il va prendre 20-30% de l'enveloppe finale à chaque fois. Nous, on travaille en direct avec des producteurs bio de la région, hein, en circuit court, ce qui fait que le prix auquel le producteur vend, c'est le prix auquel nous, on achète. Donc, on rémunère personne d'autre entre les deux. Et donc, ces ingrédients qui vont être d'une qualité et qui sont d'une qualité exceptionnelle, hein, les gens lesquels on travaille, ce sont des orfèvres, c'est des gens archi engagés qui sont dans leur domaine respectif d'une précision, d'un talent et d'un goût particulièrement prononcé. Les tomes de fromage de Bretonne Pinoir, la charcuterie de porc élevé en plein air, etc. Tout ça, ça a beaucoup de sens. Nous, en les achetant en direct, on va réussir à avoir des prix qui nous permettent de proposer ces produits-là sur des pizzas à des prix qui se situent dans la moyenne des prix pratiqués par les autres pizzerias. En fait, quand on dit rendre l'alimentation durable accessible au plus grand nombre, il ne s'agit pas de faire que le plat, il s'agit aussi de le mettre à la portée de tous les profils possibles, et ça passe par le prix. Et donc, le bio, qui a généralement cette réputation d'être plus cher, nous, en court-circuitant les intermédiaires, on réussit à vendre des pizzas dans la moyenne des prix pratiqués par les autres. Et donc, c'est tout ça la démarche qu'on met en œuvre et sur laquelle on s'appuie maintenant depuis 2 ans et demi.
Mmh. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que pour moi, c'est vraiment la pizza du futur dans le sens où tu as réussi à faire un sourcing à 100% en Loire-Atlantique.
Non, ce n'est pas la proportion. On est certifié restaurant à 95% bio. Ouais. Au final, tous nos ingrédients sont bio, à part le sel et l'eau.
Ouais.
Et tous nos ingrédients sont bio. On est audité chaque année par un organisme indépendant qui vient bien s'assurer qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et après, en Loire-Atlantique, on a plus de 80% des ingrédients qu'on va utiliser et des boissons qu'on va utiliser qui sont sourcées au plus près.
Alors attends, donc je suis désolé de m'arrêter sur les pourcents qui me manquent là. Les produits que tu n'as pas réussi à trouver en Loire-Atlantique, c'est de quelle catégorie par exemple?
Écoute, j'ai essayé de proposer une carte sans dessert au chocolat.
Effectivement.
Je me suis rendu compte que pour l'instant, il y avait un trou dans la raquette et que quand on a fait un bon déjeuner, il y a encore une grande proportion des clients qui sont soucieux de pouvoir manger un dessert au chocolat. Ouais. On sert du café aussi.
Ouais, bien sûr.
On utilise quelques fruits secs qu'on trouve pas ici. Moi, je suis originaire du Périgord et j'achète ma tomate en Périgord.
Sachant que, et ça c'est important aussi, c'est que tu respectes la saisonnalité des produits.
Bah, c'est toute une partie de notre carte. En fait, nous, on a écrit Pizzeria Agapé bio local de saison. Donc, c'est 100% bio. C'est essentiellement local. Hein, plus de 80%, c'est ce qu'on se disait. Et puis, on a 4 à 5 recettes qui vont évoluer selon la saisonnalité sur une carte de 11. Donc, entre 40 et 50% de notre offre, elle évolue selon les ingrédients qu'on trouve chez les producteurs avec lesquels on travaille, chez les maraîchers. Voilà, l'hiver, on travaille sur des bases de crème de panais, crème de brocoli. Crème de carottes,
tomate, voilà. 100% du temps.
On peut sortir de la tomate, mais la tomate, c'est un peu comme le café et le chocolat. C'est-à-dire qu'il y a des adeptes, des aficionados qui s'en détourneront jamais. Et nous, notre démarche, au final, c'est d'apporter des solutions positives. C'est-à-dire, vous avez un besoin, vous avez une habitude de consommation. Nous, avec ce qu'on va vous proposer, on va réussir à vous mettre à disposition un produit qui est le plus vertueux possible. Donc de la tomate, oui, mais bio et sourcé auprès de gens qu'on a identifiés. Et donc, ouais, sorti.
Oui, c'est surtout que la tomate fraîche, ok, bon, bah seulement en saison, mais la sauce tomate, pour le coup, elle peut se conserver facilement.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis après, je pense qu'il y a une particularité que tu n'as peut-être pas encore mentionnée, mais c'est que Agapé fait partie des deux seules pizzerias en France à être en bio.
Certifié, ouais.
Certifié.
Certifié. En fait, en France, il y a 160 000 restaurants et il y a 280 restos qui sont certifiés bio.
Ah ouais, c'est plus, ouais, je pensais qu'il y en avait plus.
La proportion, c'est ça aujourd'hui. Pourquoi cette si faible proportion? Ça n'empêche personne d'utiliser des ingrédients bio, mais de pouvoir dire qu'on travaille avec des ingrédients bio et annoncer qu'on travaille avec des ingrédients bio, c'est contraignant, puisque tu vas être audité chaque année sur la nature de tes approvisionnements. Donc, il y a un organisme indépendant qui vient passer une demi-journée avec toi, qui va regarder tes factures, qui va regarder tes recettes, qui va faire des tests de cohérence. Tu annonces tel montant d'achat pour tel mois, il va regarder tes ventes et il va dire, à partir de tes recettes, ça correspond en proportion ou pas. Donc, pouvoir dire qu'on travaille en bio, c'est, sans tromper le consommateur, c'est s'appuyer sur cette démarche qui est très, très rigoureuse, contraignante et qui représente aussi un budget. Donc, nous, effectivement, j'ai découvert ça tout récemment. Je pensais qu'on était très nombreux à avoir épousé cette démarche-là. Et au final, aujourd'hui, de pizzeria certifiée, il y a plus de 95% d'ingrédients en bio. Il y en a deux en France, nous, et une pizzeria dans le Var.
Okay.
Donc ouais, en ayant eu cette intuition, finalement, on a le sentiment d'ouvrir une voie, d'avancer, et on est en plus renforcé dans le constat qu'on fait, qu'on est effectivement très peu à l'avoir initié. Alors c'est tout le charme de notre aventure. Les pizzas, il y en a de différentes sortes. Hein. On connaît les pizzas napolitaines, on connaît les pizzas romaines, les pizzas américaines, les pizzas provençales. Et nous, depuis 2 ans et demi, on a inventé la pizza nantaise, quoi. On a un empattement particulier, travail de la farine du coin. C'est de la farine semi-complète, on l'a fait pousser avec notre propre levain, c'est du blé ancien, et puis dessus on met les ingrédients dont on a parlé, donc issus dans leur immense majorité de chez des producteurs du coin.
Excellent. Et justement, alors, ça, c'était après un an d'exploitation, on pourra revenir aussi sur tes premières galères des premiers mois, mais ce qui était très drôle, c'est que je me souviens que tu avais fait un post LinkedIn en disant, voilà, il y a un an, j'avais jamais fait de pizza de ma vie, et un an après, on a eu que des super avis, etc. Alors, il y a une double question dans ce que je veux dire, c'est comment ça se passe quand tu te dis, je vais créer une pizzeria, sachant que tu n'avais jamais eu d'expérience de restauration véritable par le passé, et puis ensuite, mais ça, on le verra après, quels ont été les retours des gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment déjà dans un premier temps. Souvent, tu vois, les gens disent je voudrais créer une boîte, etc. Mais je trouve pas l'idée. Mais en fait, l'idée d'une pizzeria, elle est hyper commune. Mais finalement, l'idée, c'est pas très important, c'est l'exécution. Et tu le prouves bien, c'est que toi, t'as non seulement fait le lien comme dit Steve Jobs, de connecter les points. C'est-à-dire, bah, lui, il avait appris la calligraphie par hasard à l'université. C'est comme ça qu'il a repris cette expérience-là pour faire différentes polices sur le premier Macintosh. Donc, tu vois, il avait fait les connexions. Et toi, finalement, ça me fait penser à ça aussi. C'est que tu as fait la connexion entre ton expertise de sourcing, de relations avec les agriculteurs que tu as repris là, dans cette expérience AGAP. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment bah, tu t'es dit, bah voilà, moi, cette idée, elle est relativement basique, mais je vais l'exécuter à ma façon. Et comment ça s'est passé, finalement?
Ouais, écoute, c'est vraiment un truc archi drôle, parce que si tu questionnes mon entourage, mes amis, mes potes, ma famille, je suis un peu l'homme aux doigts gourds, moi. Je suis vraiment le gars anti-manuel. Et j'ai passé des décennies à entendre ce truc-là, qu'est-ce qu'il est mal dégourdi, etc. Bon, je pars avec ce handicap. Mais c'est un handicap que tu peux peut-être inconsciemment transformer aussi en moteur. C'est dire, bah, attends les gars, moi aussi, je peux faire des trucs, moi aussi, je peux réaliser. Ouais, je pense que ça va vachement alimenter ça.
Ouais, mais ça c'est rigolo parce que je me permets de faire une correspondance avec un autre épisode, celui avec Jean-Pierre Gou, qui est lui mathématicien de formation. Et en fait, il a écrit donc des romans extraordinaires. Et en fait, tout le monde autour de lui disait pareil, mais bon, t'es mathématicien, hein, tu vas pas commencer à écrire des romans, hein, c'est pas ton truc, quoi. Et en fait, il a été à contre-courant comme toi, quoi.
Ah, mais tu vois, c'est hyper... enfin, je rebondis donc sur
c'est,
ce que...
C'est un vrai moteur, quoi. Interface.
C'est un vrai moteur. Et surtout, je crois que on a tous des personnalités différentes. Moi, pendant longtemps, j'ai été un peu assujetti au regard qu'on portait sur moi. Et la maturité arrivant, tu te dis, je suis un peu dans cette case-là. Comment je fais pour en sortir? Quand j'avais 20 ans, j'aimais bien écrire, tu vois. Mais j'entendais des mecs autour de moi, des potes qui me disaient « Mais si t'étais un bon écrivain, ça se saurait et t'aurais déjà publié un truc. » Et donc, je me suis enfermé pendant 15 ans dans cette idée. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'écrire un spectacle. Et je l'ai sorti et ça a jailli. Et donc, ce truc dans lequel je m'étais enfermé, de cette espèce de pseudo-conditionnement, de fatalité, de déterminisme, au final, je m'en suis affranchi, j'ai écrit un spectacle. Et pendant des mois, j'ai écrit. Et mes spectacles ont été joués. Je me suis libéré de ça. J'avais cette réputation d'avoir les doigts gourds. Bah écoute, la maturité, un peu plus de confiance en soi, et puis aussi des exemples probants autour de moi. En fait, je suis pas le premier pizzaïolo de ma famille. J'ai un jeune frère qui a 12 ans de moins que moi et qui a ouvert un camion à pizza il y a une dizaine d'années.
Okay.
Et pour lancer son camion à pizza, je l'ai accompagné. On avait réfléchi au concept. C'était un food truck qui sillonnait la campagne périgourdine. Là où il y a personne qui passe, en fait, il y avait le camion à pizza qui venait une fois par semaine et qui amenait de l'animation et puis une offre et puis on avait un positionnement qui était chouette. Et lui, ce mec, qui était pas beaucoup plus dégourdi que moi, il a réussi à faire des pizzas. Mais en fait, il a dédramatisé le truc. Et donc, voyant que mon frère, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus dégourdi que moi, réussissait, le geste m'a semblé moins complexe. Et donc, je me suis lancé et j'ai fait des formations. J'ai fait deux formations. Une pour apprendre à faire l'empattement basique et puis une seconde pour apprendre à faire la panification naturelle, c'est-à-dire travailler avec de la farine semi-complète et donc avec du levain, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est, comment dire, vraiment un enseignement, en tout cas un témoignage que moi, je peux faire sur un parcours de vie, c'est faut pas s'enfermer. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme. Avoir une idée, y croire et la mener à son terme, c'est déjà une possibilité de réalisation et puis surtout d'affranchissement de toutes les cases dans lesquelles on a voulu ou on s'est laissé enfermer.
Mm-mm.
Et ça, franchement, c'est très cool.
Tu te sens libéré, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu te dis, en fait, tout est possible. J'ai pas 45 piges, même si j'en approche. Je fais des pizzas aujourd'hui, j'ai un restaurant. Il n'y avait rien qui m'y conduisait, si ce n'est mon immense goût pour le plat en question. Donc au final, c'est pas tout à fait un hasard, c'est pas complètement fortuit, mais il n'y avait rien qui me prédestinait à devenir restaurateur. Après, j'aime bien recevoir, j'aime bien accueillir, j'aime bien faire à manger pour les gens. J'ai ce truc d'hospitalité quand même. J'aime bien quand les gens sont chez moi et qu'ils se sentent bien et qu'ils passent un bon moment. Moi, le restaurant, pour moi, c'est ça. C'est un endroit dans lequel tu es accueilli par des gens super, dans lequel tu vas très bien manger et où tu vas pas te ruiner. Voilà. C'est ça le truc.
Et d'ailleurs, justement, ça nous amène finalement à la deuxième partie de la question de tout à l'heure. C'est après 2 ans et demi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les retours que tu as?
Ouais.
Mis à part le mien, qui n'a pas de valeur. Mais raconte-nous un petit peu tout ça.
Écoute, donc on ouvre en octobre 2021 et on ouvre dans la confidentialité. Je suis pas nantais d'origine, je suis pas le gars le plus spontanément sociable de la planète. Donc je connais pas grand monde, mais on ouvre en octobre 2021 et les gens sont curieux. Une pizzeria bio locale et donc ils viennent petit à petit. Et en fait, ils découvrent une autre façon de travailler et une autre proposition qui vient en complément de ce qui existe déjà, mais qui a des saveurs satisfaisantes, puisque assez rapidement, on reçoit des très bons avis sur les différentes plateformes. Et donc, ça fait deux ans et demi que l'immense majorité des retours qu'on a sont très favorables.
Il n'y a qu'à voir les notes sur Google.
Ouais. Après, tu travailles pas pour ça,
ouais.
Parce que en fait, faut être sûr de soi, il faut assumer ses partis pris, surtout quand ils sont aussi éloignés de ce qu'est la norme. Mais quand tu les as les retours, c'est un moteur supplémentaire. Mmh. C'est clair que ça fait chaud au cœur et que tu te dis que les hypothèses que tu poses en disant que tu vas avoir cette approche complètement différente, elles sont validées par celui dont on attend la validation, c'est-à-dire le client. Donc ça, c'est très cool, et ça nous convainc que ce plat dont on évoquait au début de notre entretien, l'importance de notre alimentation nationale et dans l'alimentation de chacun, peut-être qu'on peut l'envisager à partir d'aujourd'hui et puis dans le futur, autrement, de manière plus saine, plus durable et avec un impact plus positif. Quand je parle d'impact positif, on est en train de clôturer notre second bilan qui va confirmer ce qu'on avait réalisé à l'issue du premier. Mais à l'issue du premier bilan, on sait que 24% de notre chiffre d'affaires, on le reverse directement aux producteurs de Loire-Atlantique. C'est-à-dire quand quelqu'un dépense 10 euros chez nous, il subventionne en quelque sorte à hauteur de 2,40 euros les producteurs et les paysans avec lesquels on est en partenariat. Donc on parlait du fait que les gens apprécient la cuisine, et en plus de l'apprécier, ils ont un impact vertueux sur le système économique rural de la région. Et ça, c'est l'immense fierté, parce qu'au début, on se dit « c'est possible ». Mais il faut encore réussir à le démontrer.
Prouver, hein.
Nous, on sort avec un modèle économique qui est viable. Moi, je me rémunère, j'ai des salariés, on se paye, on équilibre nos comptes. Et donc, on contribue en 2023, c'était à plus de 60 000 euros, à financer les exploitations bio de la région. Et pour nous, c'est un début. Aujourd'hui, on représente, epsilon des parts de marché de la pizza à Nantes. Mais ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est que ce qu'on propose, ça a du sens.
Bien sûr.
Pour les clients, ça a du sens aussi pour nos partenaires. J'en parlais l'autre jour avec une des fermes qui nous fournit du fromage. Ils nous disent, vous êtes devenu notre plus gros client. Et en fait, il y a une satisfaction à bosser avec vous, c'est que les volumes sont relativement linéaires. Donc, on sait produire, on sait s'organiser pour avoir des perspectives qui sont d'une rassurante et de plus confortable en termes de travail. Il n'y a pas les aléas du cycle de la vente au détail ou en particulier. Ils continuent à avoir leur activité dans les AMAP, etc. Mais nous, ce qu'on leur apporte, c'est un roulement régulier et une régularité. Et ça, c'est une sérénité supplémentaire.
Et ça, c'est important. Alors, je me permets de te couper parce qu'on est en mars 2024. Pour ceux qui l'écouteraient plus tard, on est quand même dans un contexte compliqué avec récemment les mouvements des agriculteurs, etc. Et donc, toi, tu prouves à son échelle qu'en faisant un restaurant de façon un petit peu complètement différente même, en fait, tu arrives à complètement avoir des impacts très vertueux pour ces agriculteurs-là, qui en plus, si toi t'es en bio, le sont aussi, je suppose.
Ouais, c'est des gens qui sont certifiés. De toute façon, à partir du moment où moi je dis que je suis bio, tous les ingrédients que j'achète, je dois avoir le certificat de provenance. Et donc, le fait que les fermes qui sont mes fournisseurs sont certifiés aussi. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est des gens qui sont engagés et on appartient tous à la même filière. Non, tu vois, sans vouloir sortir de chiffres délirants, on se dit le chiffre d'affaires des pizzerias en France, c'est 15% de la restauration française. Mmh. Et si tu le chiffres, c'est à peu près entre 8 et 10 milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans par les Français dans les pizzerias. Si tu te projettes et que tu vas dans un monde idéal et que tu verses 24% de cette somme-là à des producteurs, tu vas injecter dans le circuit de la production durable bio plusieurs milliards, 2,5 milliards de fonds. Avec ça, tu peux faire vivre 10 000 personnes. Quand on quantifie réellement, c'est 10 000 personnes qui peuvent en vivre et c'est 2500 fermes sur moins d'1% des terres arables. Mmh. Donc, c'est à la fois pas grand-chose en termes de surface utilisée, mais archi conséquent en termes d'impact sur la façon qu'ont les gens de s'alimenter et aussi sur la viabilité de ce métier de producteur.
Ouais, c'est surtout que j'étais en train de me poser la question, il y a combien de... Est-ce que tu as une idée du nombre d'agriculteurs et agriculturistes qui restent en France? C'est en centaines de milliers de personnes, mais je ne sais plus.
C'est 700 000.
700 000,
ouais. Ouais,
donc c'est 10 000, c'est pas non plus une majeure partie, mais ça devient quand même significatif, quoi.
En fait, quand tu dis que c'est possible... Quand tu te dis que c'est viable pour l'exploitant du restaurant, que ça apporte des perspectives à des gens qui aujourd'hui, notamment en bio, il y a une crise de l'agriculture bio parce que les débouchés, compte tenu des problématiques de pouvoir d'achat, deviennent compliqués, alors qu'on a tous conscience qu'on aimerait tous manger plus régulièrement des produits durables. Quand tu sais que ça a un impact vertueux sur l'environnement, quand tu sais que tu vas arrêter de faire circuler entre les différents pays d'Europe parce que t'importes une grande partie de tes matières premières des semi-remorques toute la journée, mais que tout ça va pouvoir être rapatrié dans l'économie locale, tu te dis, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître. Nous, c'est notre credo, on a envie d'aller plus loin. Et c'est la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir ouvert cette pizzeria à Nantes parce que il y a un contexte, il y a, je pense, une ouverture d'esprit, une capacité à absorber les innovations un peu disruptives dans l'environnement local, près de la population, bah, qui fait qu'on a reçu un bon accueil et qui fait que d'un bon accueil, on a transformé ça presque en réflexe chez beaucoup de gens, quoi.
Alors oui, ça c'est. Alors il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais rebondir pour ce que tu viens de dire, c'est que ce qui me marque, c'est que régulièrement le matin, je te vois débarquer avec ta Twingo en train de débarquer tes sacs de farine ou tes différentes canettes avec les différents produits. Donc il n'y a pas plus direct depuis le producteur que ce que tu fais, j'imagine.
Ouais, non, c'est moi, je me fais livrer par mes producteurs de fromage, de produits frais. Ils m'ont intégré avec le temps à leur circuit. C'est-à-dire qu'ils viennent dans Nantes pour participer à des AMAP. Et au tout début, pas sceptiques, mais ils étaient sur la réserve par rapport à notre projet. Donc moi, mes 4 ou 5 premiers mois, c'est je fais des allers-retours entre le restaurant et les fermes pour aller chercher mes matières premières, quoi, mes ingrédients. Et puis, c'est ce que je te disais, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un roulement, une rotation, un confort dans le travail, et ils ont fini par nous intégrer à leur circuit de distribution et à leur tournée. Donc ça, c'est cool, parce que ça limite aussi les transports et les trajets. Donc très chouette. Après, moi, j'ai une cave dans laquelle je stocke ma farine. Et donc, effectivement, c'est moi qui suis en charge de l'empattement pour la pizzeria. Et donc, tous les matins, j'arrive avec la farine dont j'ai besoin pour préparer mes pâtons. Je me mets en warning sur le trottoir de la rue Racine et je crée mon petit embarras pendant 5 minutes en déchargeant les matières dont j'ai besoin. Ouais, c'est tout ce modèle. En fait, comment dire, il y a de la complexité parce que ça demande de l'anticipation. C'est pas une usine où tout va sortir carré et où tu vas pouvoir être livré tous les matins. La complexité, c'est ça. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des rotations et une volumétrie de la complexité, tu fais une méthodo et tu sais que tel jour, tu dois faire tel truc. En fait, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est pas, t'envoies pas les fusées sur la lune, quoi. Il y a des points de contrôle à avoir, des points de surveillance sur les stocks et puis des tournées à mettre en œuvre. Et donc, en soi, on démontre que c'est faisable.
Excellent. Et tu parlais à l'instant de l'accueil nantais. Alors, tu as dû avoir encore d'autres récompenses, mais mine de rien, Nantes, tu fais maintenant partie des tables de Nantes. Mine de rien, ça, c'est aussi une belle récompense de ton travail.
Ouais, c'est très cool. Écoute, ça a une saveur vraiment particulière parce que c'est un guide à l'intérieur duquel, enfin pour lequel on postule, mais pour lequel on est visité par des gens des tables de Nantes, mais on sait jamais qui sont là.
Ouais, c'est ce fait de donc c'est le hasard. Façon anonyme, quoi.
Enfin, c'est pas le hasard, c'est ils viennent en client mystère en quelque sorte, et ils sélectionnent s'ils ont le coup de cœur pour vous. Donc quand ces gens-là qui ont l'habitude de confronter leur palais à différentes offres de restauration, bah vous reconnaissent, ouais, c'est très cool. C'est une reconnaissance. Et puis, ça c'est arrivé au bout de quelques mois pour nous. Et à ce moment-là, ouais, tu mesures le chemin que tu as parcouru de gars qui n'a jamais tenu de restaurant et qui finit par figurer sur ce guide pour lequel, objectivement, on peut avoir du respect parce qu'il y a un point de vue très objectif. Des gens qui le font. Ils ne demandent pas d'argent, quoi. Ils le font pour éclairer les touristes et les Nantais sur les destinations culinaires qu'ils ont intérêt à découvrir. Et donc, il y a une vraie volonté de mettre en avant le meilleur. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Ouais. Très chouette.
Et par rapport, comment dirais-je, à tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant, alors, on passe des galères de four hein, que tu as eues ces premiers mois en fin 2021. Je me souviens de souffrances que tu avais, etc. Et toutes les galères que tu as fait pour enfin obtenir le four que tu voulais. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire, OK, est-ce que Agapé, finalement, c'est un résultat en soi ou c'est une étape pour d'autres projets?
Écoute, moi, ce restaurant que j'adore, qui a hébergé mes premiers émois de restaurateur, il a tout cet historique, tout cet affect, mais il a aussi ses limites. C'est un petit resto. On a 24 places. Très régulièrement, voire quasi systématiquement, on refuse du monde parce qu'on n'a pas la capacité d'accueillir. Quand on le renvoie à ce pour quoi il était programmé, c'était finalement d'être un laboratoire dans lequel on pouvait démontrer ou pas que nos hypothèses de faire tout bio et essentiellement local, en misant aussi sur la saisonnalité, y avait un modèle économique derrière. Aujourd'hui, voilà, on est dans notre troisième exercice, les deux premiers se sont bien passés, donc on peut faire ce qu'on fait, on le sait, et en plus, on frustre, je pense, une partie de notre clientèle qu'on ne peut pas accueillir dans des conditions de confort suffisantes. Donc oui, on ne représente pas grand-chose, mais on voit l'engouement qu'il y a derrière nos propositions, et on se dit que un peu plus grand, un peu plus de place à un autre endroit pour apporter les réponses qu'on apporte, ça serait cool. Ouais. Donc on a ça dans un coin de la tête.
Et ce développement, alors ça peut être évidemment une nouvelle pizzeria sur Nantes, mais est-ce que tu te verrais accompagner ou dupliquer ce format-là dans d'autres régions?
Écoute, moi, quand je parle d'Agapé, en fait, je parle de la pizza nantaise.
Ouais.
Et la pizza nantaise, c'est le reflet de la farine qu'on utilise, qui vient du coin, des ingrédients qu'on utilise et qui vient du coin. Et c'est vrai qu'en Loire-Atlantique, on est particulièrement verni parce qu'il y a une proportion d'exploitations qui sont en bio qui est significative. Mais il y a d'autres coins où c'est le cas et où cette aventure, elle est potentiellement jouable. En tout cas, c'est un truc qu'on a dans un coin de la tête. Je veux dire, il n'y a pas de fatalité à dupliquer à l'infini des pizzas qui sont toujours les mêmes. En fait, ça peut être le reflet des terroirs. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer ici et pour lequel on semble être reconnu. C'est que si j'avais fait la même chose à Belfort, j'aurais pas eu du tout la même pizza. Si j'avais fait la même chose à Grenoble, ça aurait été un tout autre délire. Et en fait, tout ça, c'est protéiforme. Tu vois, j'ai une formule dans la pizzeria, ça s'appelle la ripaille. La ripaille, le projet, c'est quoi? C'est on a trois bases au choix. C'est tomates et deux légumes de saison et 20 ingrédients. Avec cette possibilité de combinaison, on a 46 000 recettes différentes. La pizza, c'est protéiforme. Tu peux multiplier à l'infini les propositions de pizza que tu peux faire selon les ingrédients dont tu disposes autour de chez toi. Et la magie de la pizza, c'est que franchement, si tu as des trucs de qualité dessus, c'est toujours bon, quoi.
Je confirme. C'est cool, ça. Et donc projet de développement, OK. Enfin, et ça, c'est quelque chose que tu souhaites faire à terme ou tu n'as pas d'urgence particulière ou comment ça se passe?
Écoute, moi, j'ai mis toutes mes billes dans Agapé, c'est-à-dire quasiment rien. et j'ai réussi à ouvrir ce petit resto. Maintenant, le développement, il passe par un financement et c'est comment dire, la volonté qu'auront bientôt des partenaires de rejoindre l'aventure. Nous, on est fort de cette expérience, on est fort de ces mois d'exploitation, on est fort de cette expérience comment dire, de collaboration avec les gens qui sont venus travailler avec nous, de partenariat avec les fermes et de finalité avec, avec nos clients. On a démontré, donc il y a de fortes chances pour que d'ici quelques temps, ben voilà, on ait de nouvelles perspectives, ouais. Casser tout le projet.
Justement, ce que je trouve assez passionnant avec ton projet, c'est que souvent, et moi le premier, il y a 12 ans quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on se dit toujours, bah oui, l'entrepreneuriat, il faut trouver une super idée, machin. Mais en fait, faut imaginer aussi un truc à portée mondiale, etc. Enfin, très startup nation, disons. Et en fait, ce que je trouve génial avec ton exemple, c'est que avec un entre guillemets simple restaurant, t'arrives à prouver que, bah, en fait, on peut avoir des impacts positifs d'un point de vue agricole, puisque bah, tu travailles principalement avec des partenaires en bio, des impacts positifs d'un point de vue économique, tu crées des emplois, tu fais travailler encore une fois des agriculteurs du coin. Bref, c'est une multitude d'impacts positifs à une échelle simple, mais tout à fait respectable. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que t'arrives à prendre le parfait travers de la Startup Nation, à dire, bah, en fait, l'innovation, c'est pas juste des algorithmes, etc. C'est aussi des trucs tout simples, quoi.
Ouais. Et tu vois, ça fait vachement écho à mes pensées. Ce que tu dis, c'est quoi? C'est que, on a tous conscience de vivre une période à gros enjeux, une période de rupture sur tout un tas de sujets. On sait qu'il y a une page qui se tourne. Et ça peut faire flipper, ça peut être angoissant, mais je crois que notre génération, elle a une responsabilité. Et nous, en tant que membres de cette génération, on a tous une petite responsabilité. C'est de faire que ce qu'on n'a pas fait très bien jusqu'à présent, on puisse l'améliorer. Et ça, je pense que dans tous les recoins de l'activité et de la société, il y a toujours une manière d'améliorer un petit peu ce qui existe et d'avoir un impact plus vertueux. Et ça, c'est dans tous les recoins. Et donc, je crois qu'il faut se tenir droit, quoi, face aux enjeux et se dire comment je réussis, moi, à mon échelle, avec mes compétences, avec mes qualités, mes qualifications, à faire face à cet enjeu et à ce contexte qui parfois est flippant, mais bon sang, on peut rester assis autour d'une table et se dire bon, tout va s'effondrer et tant pis, quoi. Non, c'est un truc face auquel moi je m'érige. Alors j'ai cherché pendant un moment et tu vois, finalement, c'est aussi bête que chou, je mange des pizzas depuis que je suis gamin. Je trouvais que c'était délicieux et on me disait que c'était vraiment pas terrible, mais je réussis à faire des pizzas qui sont délicieuses et plutôt vertueuses. Et je l'avais en moi. Et c'est finalement très marrant, quoi. Et des choses qui sont évidentes finissent toujours par se produire. Donc ouais, le truc, c'est ça. Moi, je suis pas fataliste. Je crois qu'il y a des enjeux considérables, c'est clair. Mais c'est impossible de se dire tout est fini, tout est foutu, on se laisse mourir. Non, il y a eu des enjeux, il y a eu des moments clés et des perturbations à chaque étape de l'histoire. Nous, on est face à ça. Prenons nos responsabilités. En tout cas, c'est un peu ce qui m'anime, quoi.
Ouais, et puis je suis complètement d'accord avec toi. La meilleure façon d'y faire face, c'est d'agir, quoi. Et puis surtout, l'anxiété, etc., bah, la peur n'évite pas le danger, donc autant agir, quoi. Et petite question, alors on va se projeter un peu dans le passé, je vais essayer de te ramener au moment où tu travaillais dans la grande distribution, disons, première expérience. Si tu devais te donner un conseil à ce moment-là, quand tu vas rentrer dans ce grand siège social d'une grande entreprise du CAC 40 de la grande distribution, quel conseil tu te donnerais à ce moment-là?
Écoute, moi, j'étais convaincu que, n'ayant pas de talent révélé, en fait, je devais scinder ma vie en deux, c'est-à-dire une partie oisiveté et une partie travail et chagrin. En fait, le travail, pour moi, c'était le chagrin. J'y étais, je bossais. Et une fois que c'était terminé, je passais à autre chose et le moment cool de ma vie démarrait. Et j'ai vécu sur ce logiciel plusieurs années. Je me suis affranchi de ça. Maintenant, je réussis à kiffer grave le fait de travailler et puis à prendre énormément de plaisir quand je travaille pas. Et d'une équation de vie qui était négative, positive, bah, j'arrive à être positif tout le temps. Alors, les idées préconçues qu'on a en étant un peu jeune et immature, les a priori qu'on a sur soi, sur la vie et sur son fonctionnement, je me dirais, libère-toi de ça, quoi.
Gagne du temps.
Ouais, gagne du temps. Crois en toi, crois aux opportunités, crois au mouvement. Les choses se font parce qu'on les anime. L'inertie, rester à sa place, effectivement, c'est peut-être un petit peu végéter. Créer le mouvement, c'est incroyable. C'est toute la leçon d'entrepreneuriat que je retiens d'Agapé. C'est-à-dire que si tu savais au tout début tout ce que tu vas devoir franchir, en fait, tu le ferais pas. Mais quand tu démarres, tu crées un élan et tout ce que tu as franchi, ça te pousse derrière toi. Et donc, tu avances. Et plus tu avances, finalement, moins tu as de poids derrière pour te ralentir. Plus que tu as franchi, te pousse et te fait aller de l'avant. Et tout ça, ça part d'un mouvement et d'une idée que tu as cherché à matérialiser. Donc ouais, le jeune mec que j'étais, qui venait chercher son salaire en travaillant beaucoup, mais en prenant aucun plaisir, je lui dirais, la vérité est ailleurs.
J'imagine bien plus de te parler à toi-même. Et maintenant, on va se projeter plus dans le temps, mais dans le futur. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un petit garçon et une petite fille. On va considérer qu'ils sont devenus papa et maman et que maintenant tu es en position de parler à tes petits-enfants. Et donc maintenant, j'aimerais que tu leur parles de finalement pourquoi tu t'es lancé dans Agapé. Qu'est-ce qui te semble important? Comment tu leur en parlerais?
Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais, imaginez les amis, il y a eu une époque où le plat qu'on adore tous, il était assimilé à de la junk food et personne ne s'en souciait. Et on a réussi à imaginer avec grand-mère, et donc moi, grand-père, une alternative pour que les gens continuent à se régaler en ayant un impact vertueux. Imaginez qu'avant l'amorce de ça, eh bien, ça n'existait pas. En fait, toute votre vie, il va y avoir des choses à améliorer et un impact à avoir. Réfléchissez, situez-vous dans votre environnement et essayez de l'améliorer. Soyez toujours dans une démarche de progrès et d'entraînement du progrès autour de vous, quoi.
Ok, excellent. Bah écoute, Pierre, j'ai envie de te dire un grand merci pour tous ces enseignements, tous ces retours d'expérience que tu as vécu avec Agapé. Est-ce que tu as des choses à ajouter?
Écoute, c'était un super moment, moi je suis très content du partage et puis de la mise à l'aise que tu m'as offerte. Voilà, c'était un petit peu mon zénith à moi, alors je suis ravi de l'avoir partagé avec toi. Merci, Roy.
Bah, écoute, plaisir partagé. Encore bravo, parce que même si c'est un peu du combat avec le gluten, je viens quand même savourer avec grand plaisir tes pizzas. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Et surtout, bonne chance pour la suite, parce que tout ce que tu fais, c'est super inspirant et j'espère que ça inspirera d'autres à faire des copines d'Agapé dans d'autres régions de France. Et j'espère qu'ils te contacteront pour que tu puisses les inspirer. Encore bravo et bonne chance pour la suite.
Merci, Brian.